Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Dans Espérance aujourd'hui, nous apportons un regard biblique sur des sujets d'actualité.
Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de discussions abordant le thème de la paix. Tout au long de cette série, Étienne, le pasteur d'une église se trouvant à Mulhouse, en France, nous fera part de ses réflexions.
Après avoir abordé la dernière fois le thème de la paix dans nos relations avec nos voisins, nos amis, nos collègues ou nos camarades, nous allons aujourd'hui parler de la paix au sein même de la famille. Étienne, comment voulez-vous introduire notre sujet ?
Comme je l'ai fait la dernière fois, je voudrais commencer cette étude en citant des proverbes bibliques. Un fils insensé fait le malheur de son père, et les récriminations d'une femme sont comme une gouttière qui ne cesse de couler. Et puis, mieux vaut habiter dans un pays désertique qu'avec une femme querelleuse et irritable.
Ces proverbes semblent concerner les femmes.
Je pense que toute personne raisonnable comprendra la véritable portée de ces proverbes. Loin de s'en prendre aux femmes, l'auteur voudrait que tous nous nous remettions en question. Aussi, la leçon à retenir est celle-ci. Dès qu'une personne, épouse ou époux, enfant ou parent, fait subir aux autres son mauvais caractère, des conséquences s'ensuivent. Car au sein d'une même famille, une seule personne suffit pour perturber la paix de tous. Et tout comme une gouttière qui ne cesse de fuir bruyamment finit par agacer, les comportements de certains de nos proches peuvent aussi finir par susciter un manque de patience, des éclats de voix ou des conflits de plus en plus graves, voire violents. Alors certains pourraient conclure, tout comme l'auteur des proverbes, qu'il est préférable de vivre autre part, plutôt que de demeurer dans un foyer dépourvu de paix. Le pire qu'une famille puisse vivre est que l'un de ses membres en ait tellement assez d'une situation difficile qu'il décide de partir. Ce qui aboutit à une rupture de relations désastreuse et parfois définitive.
Vous évoquez des situations vraiment graves.
C'est vrai, mais malheureusement, beaucoup de nos auditeurs savent de quoi je parle. Si nous abordons aujourd'hui ce sujet, c'est pour avertir nos amis, dans l'espoir qu'ils évitent le pire, et afin d'encourager chacun à travailler pour la paix au sein de sa propre famille.
Tous, nous nous attendons à ce que la famille soit un refuge paisible dans un monde mouvementé. Mais lorsque certains vivent le contraire, cela devient pour eux une expérience pénible.
C'est vrai, Yann, mais nous devons réfléchir maintenant sur la façon d'aider ces personnes, ces familles en détresse.
Et comment proposez-vous de faire cela ?
Je propose que nous passions en revue d'abord l'idéal biblique du mariage, et ensuite nous aborderons le problème de fond qui met les mariages en danger. Et enfin, nous verrons les qualités qu'il nous faut rechercher afin de promouvoir la paix au sein de nos familles.
Je vous laisse donc la parole pour nous parler de la vision biblique du mariage.
Nous constatons dans les récits évoquant la création, en Genèse chapitre 1 et 2, que Dieu créa l'homme et la femme, l'un pour l'autre. Aussi, lorsqu'une personne est célibataire, il est normal et tout à fait naturel qu'elle aspire à trouver quelqu'un avec qui partager sa vie. Le mari et son épouse, selon la Bible, devraient se compléter l'un l'autre. Ils devraient trouver du plaisir à marcher ensemble et à s'entraider. Cette vision biblique du mariage se découvre aussi dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul en parle dans la lettre qu'il a écrite à l'église d'Éphèse. Il mentionne que la femme doit se soumettre à son mari tout comme l'église se soumet à Jésus-Christ. Il ne s'agit pas là d'une soumission peureuse, mais d'une soumission confiante, issue du désir de plaire à son mari, de l'aider et de le compléter. Paul exhorte aussi les maris à aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Nous remarquons que cet amour dépasse l'amour sexuel, qui, bien sûr, a sa place dans le mariage. Cet amour qui naît de Dieu voit les besoins de sa femme. C'est un amour qui tient compte de ses intérêts. C'est un amour prêt à faire des sacrifices pour assurer son bien-être et son bonheur.
Je pense que vouloir mettre en pratique l'amour de Dieu au sein de notre mariage ne peut que favoriser la paix au sein de notre couple et de nos familles.
Tout à fait, Yann.
Qu'est-ce qui empêche donc la réalisation de cet idéal ?
Les premiers problèmes de couple sont apparus suite à la désobéissance d'Adam et d'Ève qui, mutuellement, se sont accusés au lieu d'accepter leur tort. C'est donc tout simplement l'égoïsme de l'un et de l'autre qui va perturber la paix. Lorsqu'une personne recherche ses propres intérêts, elle va toujours désirer obtenir plus, sans tenir compte des aspirations ou des besoins de son conjoint. Lorsqu'une personne ne pense qu'à satisfaire ses désirs, elle va chercher à manipuler, à dominer l'autre, afin de servir ses propres intérêts aux dépens de ceux de son vis-à-vis. Quand ce genre de situation s'aggrave, soit l'un devient esclave de l'autre, soit un conflit ouvert s'établit, accompagné parfois de querelles et de disputes, d'insultes ou de violences. Dans les deux cas, on ne peut guère parler de paix.
Mais comment résoudre ce problème? Quels conseils pouvez-vous apporter?
Nous avons déjà évoqué les deux attitudes que le mari et la femme doivent avoir l'un envers l'autre. L'amour et la soumission confiante. Dans un couple où l'harmonie règne, l'homme et la femme agissent à l'unisson et marchent ensemble dans la paix et l'harmonie. Un mariage qui consiste en deux individus se comportant égoïstement l'un envers l'autre ne constitue pas un modèle dans le sens biblique du terme. Lorsque nous avons compris cela, nous devons chacun nous examiner afin de nous assurer que nous ne faisons pas preuve d'égoïsme dans nos relations avec notre mari ou notre femme. Ensuite, il nous faut réfléchir sur la manière de mieux pratiquer l'amour au sein de notre vie de couple. Et, je le répète, je parle de l'amour au sens biblique du terme, l'amour qui se donne pour l'autre. Nous pouvons réfléchir sur les aspects de notre conduite qui perturbent notre famille, qui empêchent la paix de régner, et étudier la manière d'atténuer les choses négatives en nous.
Étienne, vous nous appelez à effectuer un changement radical, mais il n'est pas toujours facile de changer pour le mieux.
Vous avez raison, Yann. Les mauvaises habitudes dans notre conduite, produites par notre égoïsme, sont profondément enracinées dans notre vie. Pour cheminer vers un changement réel et positif, nous devons favoriser l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies.
Parlez-nous donc du Saint-Esprit et de ce qu'il accomplit dans nos vies.
Le Saint-Esprit, c'est Dieu avec nous, Dieu en nous. Son ministère est varié. Nous pouvons dire, entre autres, que l'Esprit de Dieu nous aide à mener le combat, la lutte contre le mal et l'égoïsme dans nos vies. De même, l'Esprit de Dieu désire produire un fruit dans nos cœurs qui se manifeste par les qualités suivantes: l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la fidélité et la maîtrise de soi.
Je constate que plus ce fruit s'exprimera dans nos vies, plus nous connaîtrons la paix au sein de notre mariage.
Il est vrai que ces qualités ne peuvent que favoriser la paix dans toutes nos relations humaines, comme dans notre vie de couple. Il y a néanmoins d'autres qualités évoquées par la Bible qui faciliteront la paix tout autant.
Et quelles sont-elles?
Il est important d'écouter son mari ou sa femme au lieu de toujours réclamer ou d'exiger de l'autre. L'écoute est importante si nous voulons mieux comprendre les besoins et les aspirations de notre époux ou épouse. L'écoute nous aide à comprendre la manière d'aimer l'autre d'une façon appropriée et efficace. Une autre qualité importante que je voudrais mentionner avant de conclure est la volonté de pardonner. Il y aura toujours des malentendus, des gestes maladroits ou mal intentionnés. C'est pourquoi il faut savoir pardonner, comme Christ nous a pardonné. Sinon, la situation risquera de se détériorer, engendrant l'amertume qui détruit ou créant des conflits de plus en plus graves. Oui, la pratique de l'écoute et du pardon aidera beaucoup de couples et de familles à retrouver la paix dans leur foyer.
Nous venons d'aborder le thème enrichissant de la paix. Et en parallèle avec ces discussions, nos méditations bibliques traiteront ce même thème. Elles vont se baser sur les paroles de Jésus que voici.
Heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils.
Ces paroles se trouvent dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 9. La dernière fois, notre invité Antoine nous a rappelé la merveilleuse vérité que lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, Dieu nous adopte comme ses enfants. Aujourd'hui, il va plutôt nous parler du rapport existant entre la première partie de ce verset « Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix » et la deuxième partie de ce verset « Car Dieu les reconnaîtra pour ses fils ».
Merci Hélène pour cette introduction. Aujourd'hui, je vais me servir d'une illustration. Car si vous êtes parent, vous avez pu remarquer que vos amis aiment vous dire en quoi vos enfants vous ressemblent. Ils peuvent, par exemple, soulever certaines ressemblances physiques et vous affirmer « Oh, il a le sourire de son père !» ou bien « Elle a les yeux de sa mère !» D'autres vont relever les similitudes quant aux compétences ou à la personnalité et s'exclamer « Elle est bien douce, comme sa mère !» ou « Il est bricoleur comme son père !» Il est tout à fait naturel qu'un enfant ressemble à ses parents. Il est également naturel qu'un enfant désire imiter ses parents. Nous pouvons dire que ce sont autant de preuves que cet enfant est le nôtre. Si, selon la Bible, celui ou celle qui croit en Jésus-Christ peut prétendre être enfant de Dieu, il ou elle doit alors se demander « Quelle preuve montre qu'effectivement je suis enfant de Dieu ?» Écoutez quelques paroles tirées de la Bible. Jésus déclare « Votre Père céleste est parfait, soyez donc parfait comme lui. » Également, l'apôtre Paul nous donne cette exhortation « Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. » Ces versets nous enseignent que si nous sommes enfants de Dieu, notre ressemblance avec notre Père céleste doit se voir. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons avoir les mêmes buts que le Seigneur lui-même. Si nous sommes enfants de Dieu, nous éprouvons alors le désir de suivre l'exemple de Jésus. Nous éprouvons le désir de l'imiter, de lui ressembler. Si nous sommes enfants de Dieu, nous aimons tout ce que Dieu aime. Et en quoi devons-nous lui ressembler? L'Éternel est un Dieu de paix et il aime la paix. Dès lors, à notre tour, nous devons aimer et rechercher la paix. Nous devons la répandre autour de nous. C'est ainsi que nous prouverons que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Et l'Éternel nous reconnaîtra comme tels.
Nous remercions Antoine et Étienne pour leur participation. Il leur reste encore beaucoup à dire sur ce vaste thème de la paix. Pour en savoir plus, nous vous donnons rendez-vous lors de notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui.
Mais nous prions déjà pour que l'Éternel, le Dieu de paix, fasse de vous ses enfants.
Alors nous vous disons au revoir.
Et que Dieu vous bénisse.